L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission quotidienne L'AJT du local, toujours avec Claire de nos studios de Laval. Bonjour Claire.
Eh oui, bonjour tout le monde.
Et donc aujourd'hui, on va parler d'une belle opération de solidarité, offrir des livres aux enfants qui ne peuvent pas s'en procurer, une opération menée par le Secours Populaire dans 3 librairies indépendantes de Mayenne. Claire s'est rendue dans l'une d'elles, Je bouquine à Laval, reportage à suivre. Un réseau pour les femmes politiques élues locales, c'est ce que veut développer Chantal Grandière en Mayenne. Malgré la loi sur la parité, la féminisation est loin d'être acquise, vous l'entendrez. Et on poursuit notre tour d'horizon des commerçants de Château-Gontier pour savoir comment ils s'en sortent pendant le confinement. Rendez-vous ce jeudi dans la boutique de vêtements et accessoires La Fée Fifi avec Sophie Gachot.
Mais tout de suite, un point sur l'actualité. Les retraités mayennais partagent leur inquiétude au préfet.
Les organisations syndicales et associations de retraités du département ont envoyé une lettre à Jean-Francis Treffel. Elles indiquent donc leurs craintes et leurs inquiétudes, notamment la baisse du pouvoir d'achat, le plan de réduction du budget de l'hôpital public, et s'opposent à la création d'une 5e branche de la sécurité sociale dédiée à la perte d'autonomie, une branche qui pourrait être financée par les personnes âgées elles-mêmes.
Après la Gravelle, un autre cirque bloqué à Montsûr.
Conséquence du confinement, le cirque Viva est bloqué sur le champ de foire de Montsûr depuis le 28 octobre. Les artistes étaient en tournée dans la région et notamment à Évron pendant les vacances de la Toussaint. Aujourd'hui bloqué sur place sans pouvoir accueillir de spectateurs, il lance un appel aux dons des habitants, notamment de foin pour les animaux. La municipalité prend déjà à sa charge l'eau et l'électricité de ses familles.
Accident ce matin à Nuillé-sur-Vicoin.
Une voiture et un deux-roues se sont percutés rue d'Anjou vers 8h. La conductrice du cyclomoteur, âgée de 18 ans, a été hospitalisée à Laval.
Le responsable de l'incendie des Restos du Cœur, interpellé à Mayenne.
Une armoire électrique près du local de l'association à Mayenne avait été incendiée il y a 8 jours, provoquant la perte de presque un millier d'euros de denrées alimentaires. Le suspect, un bénéficiaire des Restos du Cœur, a été interpellé hier. Il sera convoqué devant le tribunal en janvier prochain.
Une fleuriste dénoncée pour avoir mis ses bouquets en dépôt-vente.
À Mayenne, Odile Larcourt, qui tient la boutique Un Brin de Création, avait déposé ses bouquets dans 6 commerces dits essentiels, de quoi assurer 10% de ses ventes habituelles, sauf que ce n'est pas autorisé en Mayenne et qu'une personne l'a dénoncé à la gendarmerie. En attendant de pouvoir rouvrir sa boutique, elle continue le click and collect et les livraisons.
Un marché de Noël virtuel cette année à Laval.
À cause du contexte sanitaire et du plan Vigipirate renforcé, la municipalité a choisi d'annuler le marché cours Clémenceau et place du 18 juin. À la place, une plateforme en ligne sur le site de la ville de Laval pour soutenir les commerces locaux. La vente des sapins de Noël en centre-ville, elle, est maintenue, tout comme le village provençal au jardin de la Périne. Le programme des illuminations sera forcément modifié. Le lancement se fera lors de la première semaine de décembre, un jour surprise.
Et Marie, on prend la route du Vendée Globe.
Avec de plus en plus de skippers qui franchissent l'équateur, ce devrait être au tour de Maxime Sorel avec son bateau VNB Mayenne en fin d'après-midi. Le skipper est actuellement 14e. Quant à Fabrice Amedeo, toujours avant-dernier, il relativise. Je me fixe l'objectif de revenir sur les vieux bateaux, c'est-à-dire les bateaux sans foil, et de les déplacer, mais je ne me fixe pas d'échéance. Fabrice Amedeo qui est en passe de rattraper ses concurrents.
Jusqu'à demain, le Secours Populaire et les libraires indépendants organisent l'opération « Donner à lire ». En achetant un livre que vous laisserez à votre libraire, le but est de pouvoir le donner à un enfant qui est accompagné par le Secours Populaire. 3 libraires y participent, Aime lire, Je bouquine à Laval et la librairie du Marais à Mayenne. Emma Laroche, co-gérante de Je bouquine, nous présente comment se passe l'opération.
Nous sommes donc une librairie spécialisée jeunesse, avec également un pôle jeux de société pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Nous participons depuis 5 ans à l'opération Donner à lire. L'idée, en fait, c'est que les clients, quand ils viennent à la librairie, puissent également mettre dans leurs achats un livre pour les enfants du Secours Populaire. Donc un livre neuf, un livre qu'on aura aussi nous choisi ensemble. Ces livres seront remis à partir du 20 novembre aux enfants. Et l'idée, c'est qu'ils puissent avoir accès à des livres qui sont chouettes, qu'on adore, que le plaisir soit partagé jusqu'au bout. Je sais que les clients, quelquefois, ont une idée précise. Par exemple, il y a un client l'autre jour qui voulait mettre un Elmer, l'éléphant de toutes les couleurs. Donc voilà, on a mis un Elmer. Puis il y a des clients qui veulent juste qu'on leur donne un conseil comme on fait habituellement pour leurs enfants. Alors là, on a une centaine de livres. C'était plutôt une bonne année, parce qu'il y a eu des années entre 50, dans les petites années, une cinquantaine de livres, jusqu'à 200 livres pour les meilleures années. C'est une année plutôt correcte pour donner à lire, mais voilà, on était tellement bien partis que on est un peu déçus. Je crois que cette année, Noël risque d'être compliqué pour tout le monde, mais je crois qu'il ne faut pas oublier ces enfants qui vont avoir aussi envie de découvrir des livres au pied du sapin. Et puis, à travers la lecture, pouvoir s'évader, leur offrir un peu de rêve et un peu d'évasion à travers les livres, ça serait chouette.
Pauline Foucault est l'animatrice coordinatrice du Secours Populaire du département. Elle nous explique à qui s'adressent ces dons.
Ce sont les personnes qui ont l'aide alimentaire chez nous, donc qui sont inscrites, en fait, c'est les personnes qu'on accueille sur inscription par rapport à l'aide alimentaire. Et donc là, notamment, cette année, ça concerne 247 familles et notamment 378 enfants qui sont concernés par la distribution de jouets. Donc bien évidemment, on n'a pas autant de livres sur les librairies avec l'opération Donner à lire. Mais nous, voilà, on fait aussi l'achat de jouets neufs et donc les livres aussi qu'on offre aux enfants, parce qu'on essaye de distribuer un maximum au niveau des jouets. Enfin, voilà, il y a des jouets, mais il y a aussi le livre qu'on trouve un support important aussi pour les enfants à avoir comme jouet. Le Secours Populaire part du principe qu'un livre, voilà, ça se garde dans le temps. On trouve que c'est un bon support familial aussi. Ça peut être l'histoire à lire en famille, l'enfant qui lit son histoire tout seul. Enfin, voilà, on trouve que c'est un bon cadeau pour les enfants.
Il reste encore un peu de temps pour participer à l'opération. N'hésitez pas à contacter la librairie Aime Lire et Je Bouquine à Laval et la librairie du Marais à Mayenne.
Merci Claire. Un réseau qui regroupe uniquement des femmes politiques aux mandats locaux. Pourquoi ? Quels avantages ? On en discute avec l'élue Chantal Grandière juste après avoir écouté François and the Atlas Mountains, Grand Dérèglement.
Quelques excédents, eux sillonnent le continent de long en large, recherchent une place dans le sens de la marche, l'essence du pays échappe, l'histoire la rattrape, l'exode les happe, s'étale sur plusieurs années. Thank you. avec quelle cadence. Ses rapports sous fleur nonchalance, va croire au boniment de devins qui disent qu'un divin calcule nos régiments, il respire comme il monte.
Combien de temps, d'années, d'années, se laisser glisser, lancer des règlements.
Écoutez l'autre radio et plus précisément l'AJT du local. Dans 8 jours auront lieu les journées nationales des femmes élues, organisées par le réseau des élus locales au niveau national, élus avec un E. La délégation mayennaise a été créée il y a un peu plus d'un an et demi à l'initiative de Chantal Grandière, son actuelle référente. Elle est conseillère départementale et conseillère municipale à la ville de Laval. Et petite précision lexicale avant d'écouter l'interview, les Comcom désignent bien sûr les communautés de communes et qui sont des EPCI, des établissements publics de coopération intercommunale. On écoute. Chantal Grandière, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc référente pour le réseau d'élus locales en Mayenne, élus locales avec des E, puisque ça regroupe donc les femmes élues locales en Mayenne. C'est un réseau qui a été créé en 2019, c'est ça ?
Alors non, c'est un réseau qui a été créé en 2012. En 2019, effectivement, j'ai lancé officiellement et on était la 35e délégation départementale, puisqu'après l'organisation nationale, régionale, ça a été départemental.
2012, c'est en France, c'est ça? Et donc 2019, voilà. Ici en Mayenne. Pourquoi justement avoir lancé cette délégation départementale?
Parce que je pense que c'est une vraie attente au niveau des élus de pouvoir se concerter, de pouvoir échanger et d'avoir aussi accès à la formation. De partager nos difficultés, quels que soient les territoires, parce que je pense qu'aujourd'hui, on rencontre les mêmes difficultés sur différents territoires. Et puis, c'est intéressant aussi, surtout de tout temps et encore plus là, puisqu'il faut quand même une grande adaptabilité dans cette crise sanitaire qui nous impose un certain nombre de choses, de normes, et que parfois, eh bien, les personnes peuvent se sentir un peu seules. Et c'est vrai que du coup, c'est un vrai réseau qui nous permet un bel échange.
Puisque donc il y a l'échange évidemment entre vous, élu local en Mayenne, mais qui est peut-être plus facile à trouver par d'autres biais, et puis aussi l'échange, j'imagine, avec d'autres délégations, d'autres départements.
Exactement, avec d'autres délégations, avec parfois aussi les ministères. Hein. On a eu une visio la semaine passée avec Nadia Hay. Donc c'est aussi des choses qui sont relativement assez intéressantes dans la mesure où lorsque vous êtes élu de base, contrairement aux parlementaires, hein, soit aux sénateurs ou même aux députés, on n'a pas cette possibilité aussi d'échanger directement. Et c'est vrai que ce réseau nous permet aussi cette concertation qui est assez intéressante et qui peut être très fructueuse.
Vous avez des exemples en tête ?
Ben, je vous disais, la semaine dernière, on avait une visio avec Nadia Hay. C'est intéressant aussi pour elle d'avoir des échanges avec des élus de tous les territoires via ce réseau. Mais c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui nous renforce dans notre rôle et dans nos mandats d'élus locaux.
Et d'élus locales, donc avec un E, puisque l'idée, c'est aussi de promouvoir la place des femmes en politique, c'est ça ?
Bien sûr, et là, il y a encore des marges de progrès. Sur la France, alors j'ai des chiffres qui datent un petit peu, mais c'est vrai qu'en Mayenne, on était à 17,2% des maires qui étaient femmes élues. Je crois que ça remontait un petit peu. C'était un petit peu mieux que la moyenne nationale qui plafonnait à 16%. Mais sur l'Assemblée nationale, j'ai pas en tête les derniers chiffres, mais on était à 38%, ce que j'avais des députés, et seulement au Sénat, elle représentait 29% des élus. Donc, on est encore très, très loin de la parité. Je pense qu'on a un vrai travail à faire pour que les femmes puissent avoir aussi et se voir confier aussi des structures structurantes comme l'urbanisme ou les finances. Parce que souvent, les femmes sont souvent aussi investies et n'osent pas, parce que je pense que c'est aussi quelque chose qu'on n'ose pas s'approprier et d'aller sur… Des dossiers tels que effectivement l'urbanisme ou les finances où c'est surtout les hommes qui pilotent ou qui sont à la tête même des EPCI, puisque regardez sur la Mayenne, il y a une seule femme qui est présidente de Comcom.
Une seule sur tout le territoire, c'est vrai que c'est très peu. Vous parliez justement aussi des compétences qui sont confiées à ces femmes ou qu'elles s'approprient. Est-ce que c'est vraiment une histoire de confiance en soi ou est-ce que c'est aussi de laisser faire ? C'est-à-dire que lorsqu'il y a justement, alors je ne sais pas comment ça se passe, mais lorsqu'on décide quelle compétence va à quel élu, est-ce que c'est aussi à ce moment-là où en fait on dit bah non, vous êtes une femme, donc vous allez plutôt vous occuper de la petite enfance par exemple ?
Non, pas forcément, c'est pas comme ça que les choses se font. Mais c'est vrai que je pense que les femmes, contrairement à l'engagement des hommes en politique, les hommes s'engagent plus facilement. Les femmes, en général, on a été les chercher, soit parce qu'elles étaient déjà engagées sur leur territoire de manière associative ou autre. Et combien de femmes, même quand c'était un homme qui venait à la maison, toquer à la porte, disant « Ah, mais mon mari n'est pas là, parce que mais non, ce n'est pas votre mari, je venais voir, c'était vous. » Et c'est vrai que la femme est beaucoup plus frileuse, en tout cas sur l'engagement. Je ne dis pas qu'elle n'est pas en compétence, parce que loin de là. Mais sauf que ce n'est pas elle qui va se mettre en avant. Et les femmes sont beaucoup plus réservées aussi, sur un certain nombre de domaines. D'ailleurs, on se rend compte sur la prise de parole publique, sur c'est pas quelque chose d'inné. Il faut vraiment qu'elles se forcent pour se mettre en avant, pour aller. Et je pense que justement, ces réseaux servent aussi à prendre confiance en soi pour pouvoir aller plus loin.
C'est des problèmes, enfin problèmes en tout cas, des situations qu'on rencontre aussi dans les grandes entreprises, par exemple.
Bien sûr.
Voilà, les PDG du CAC 40, il y a très peu de femmes. C'est une situation donc là qu'on retrouve aussi en politique. Donc c'est vraiment un problème de société plus globale en fait.
Bien sûr, oui, c'est pas exclusivement. Et s'il n'y avait pas eu cette loi sur la parité, je pense qu'on n'aurait pas avancé aussi vite sur les territoires. Mais il faut encore aller plus loin. Et c'est vrai que bon, parfois ça peut être difficile aussi de s'engager parce que à aucun homme, lorsqu'il s'engage, on lui demande ben, comment tu vas faire avec les enfants et à la maison. Tandis que la femme, c'est évident. La femme peut travailler à l'extérieur, mais bien évidemment, elle est en responsabilité par rapport aux enfants et puis et d'assumer tout le quotidien de la maison. Et donc, parfois, ben, c'est vrai que ça peut faire peur parce qu'un engagement dans la vie politique, c'est un engagement qui représente quand même un certain nombre d'heures.
Pas mal de effectivement stéréotypes sont doutes à bouger.
Il y a encore des stéréotypes qu'il faut combattre hein, parce que voilà, après, c'est une question d'organisation.
Mais donc vous-même, vous êtes conseillère départementale et puis conseillère municipale à la ville de Laval. Est-ce que Laval. Vous avez eu des freins dans votre engagement ? C'est depuis longtemps que vous voulez faire de la politique ?
Comme la majorité des femmes, et je ne le pensais pas être aussi dans un constat global, ce n'est pas moi qui avais le souci de l'engagement politique. Pourtant, j'aurais pu, puisque j'avais un papa qui a été engagé 25 ans sur la ville de Laval au niveau du conseil municipal. Mais c'est mon engagement associatif, mon engagement dans mon quartier, dans le comité d'animation, c'est tous ces engagements qui ont fait que la politique est venue me chercher pour constituer ces listes. Et c'est un petit peu comme ça, et c'est vrai qu'entre l'engagement associatif et l'engagement politique, eh bien, vous portez aussi un certain nombre de choses. Il n'y a qu'un petit pas, mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose, en tout cas, que moi, j'avais été, ou que j'ai cherché, ou que j'ai sollicité. On est venu me solliciter. En ce qui me concerne, ça a été assez violent, j'ai envie de dire, dans la mesure où je ne m'y attendais absolument pas. Que ça a été François Daubert qui est venu me chercher et il est venu, il m'a appelé un lundi matin et il fallait que je lui donne la réponse le lundi soir. Donc autant vous dire que je n'avais pas beaucoup de temps de réflexion, enfin je lui ai demandé quand même au moins la journée pour réfléchir, parce qu'il n'était pas question de s'engager sur comme ça un coup de tête. Et il m'a dit, mais il faut que ce soit rapide. Et de fait, la liste sortait le mercredi matin. Donc, vous voyez, ça a été extrêmement rapide. Je suis à mon troisième mandat en tant que conseillère municipale, adjointe au maire et à nouveau conseillère municipale de Laval dans l'opposition ou dans la minorité. Je préfère aussi ça. Donc, ça a été quelque chose d'extrêmement rapide. J'ai jamais regretté, hein. C'est pas ce que je dis, mais en tout cas, voilà comment s'est passé mon engagement, en tout cas en politique.
Donc en tout cas, comme vous l'avez dit, pas de regrets depuis cet engagement. La situation en Mayenne, on va dire au niveau de la féminisation du monde politique, elle rejoint à peu près la situation nationale ou il y a des particularités ?
Non, elle rejoint un peu la situation nationale, même si on était légèrement mieux en Mayenne, mais vraiment très légèrement. Hein. Quand je citais tout à l'heure 17,2% des femmes qui sont maires, alors que la moyenne nationale plafonne à 16%, on n'était pas non plus… Il n'y avait pas une grosse différence, quoi.
Et ce, donc, malgré les lois sur la parité qui sont passées, c'est-à-dire que j'imagine qu'il y a 20 ans, alors je n'ai pas les chiffres, mais c'était bien pire.
Ah ben totalement, totalement. De toute façon, je pense que la loi de la parité a été quelque chose de nécessaire, même si ces messieurs ont parfois eu du mal à la mettre en place, hein, parce que j'ai entendu beaucoup d'hommes aussi dire, bah oui, mais nous, pas toujours facile d'arriver à trouver des femmes qui constituent la liste, et puis parfois, ça leur faisait mal au cœur parce qu'ils avaient des compétences, mais ils n'avaient pas une femme, et il fallait absolument que ce soit une femme qui rentre pour avoir la liste dans la parité, quoi. C'est vrai que c'est les difficultés, mais je pense que comme tout ce qui se met en place, de toute façon, il faut que ça chemine, il faut que ça prenne un petit peu de temps, et puis il faut savoir oser, et je pense que c'est parfois ce qui manque un petit peu aux femmes.
Là, c'est vrai que du coup, vous disiez que certains maires ou en tout cas hommes politiques étaient un peu gênés parce que d'autres hommes ne pouvaient pas du coup prendre la place entre guillemets de cette femme. Mmh. Donc, c'est vraiment un système de discrimination positive. Pour vous, c'est vraiment important d'en passer par là pour justement qu'il y ait enfin peut-être de tendre vers cette égalité.
Oui, mais de la même manière que si ça avait été dans le sens inverse, ça aurait été la même problématique. Je pense que si c'était une représentativité plus des femmes, d'une manière générale, il aurait fallu en écarter certaines pour pouvoir faire de la place aux hommes. Hein, je pense que dans le cas de figure, quel que soit le cas de figure, voilà la difficulté. Mais après, ça va se mettre en place doucement, tranquillement. Je pense que les femmes ont besoin effectivement de prendre de l'assurance. Elles commencent à oser de plus en plus. Et puis, le fait, et c'est pour ça qu'est toute cette importance aussi de ce réseau qui permet aussi de la formation, dont on ignore souvent aussi qu'on a aussi cette faculté de pouvoir se former.
Je pensais, le réseau en tant que tel, qu'est-ce qui le fait vivre ? Il y a des réunions régulières avec le réseau des élus locaux en Mayenne ?
Oui, alors cette année, c'est un petit peu compliqué, puisque justement, la dernière réunion que j'avais et dont on devait débriefer, qui devait se trouver donc fin octobre, à la Com-Com du Mont des Avaloirs n'a pas pu se tenir, hein, puisqu'on était le 31 octobre et qu'il y a eu des mesures. Donc là, on avait... effectivement, une quarantaine de personnes qui étaient inscrites, de femmes, essentiellement plutôt du Nord Mayenne. Alors, on n'exclut pas les messieurs. Hein. Dans nos journées nationales, il y a parfois des messieurs qui viennent. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Ils sont pas exclus, même s'ils sont très, très nettement en minorité. Voilà. Et on avait des intervenants. C'est aussi l'occasion de partager, d'échanger. Donc, je suis en train de réfléchir aussi de quelle manière, cette crise sanitaire doit se poursuivre, parce que je ne suis pas sûre que la sortie elle va se faire du jour au lendemain et que ça va rester encore compliqué, certainement d'ici la fin de l'année et voire au-delà, de quelle manière on peut peut-être faire vivre les choses.
Et j'ai une question un petit peu bête. Est-ce que ça change de manière générale, si on fait des grandes généralités, est-ce que ça change la manière de faire une politique si on est une femme ?
Oui, oui, tout à fait, mais la femme n'a pas toujours la même approche sur les dossiers, pas la même perception, parfois sa façon de voir les choses. Mais je dirais que, en tout cas, pour moi, il n'y a aucune incompatibilité à ce qu'il y ait une complémentarité entre les hommes et les femmes, sur quels que soient les dossiers d'ailleurs. On a parfois des perceptions qui peuvent être un petit peu différentes sur certains sujets, mais je trouve que ça fait du bien aussi de féminiser. Quand je parlais de l'urbanisme tout à l'heure, je pense que c'est bien aussi qu'il y ait des femmes qui se penchent aussi sur ce genre de choses, parce qu'il y a des détails qui forcément vont moins leur échapper.
À quel petit détail, justement, une femme peut peut-être faire plus attention qu'un homme ?
Sur des aménagements possibles, par exemple, dans une ville ou dans une cité, la femme n'aura pas forcément le même regard. Peut-être parfois un regard beaucoup plus pratico-pratique. Et donc, forcément, dans l'aménagement, il y a des choses qu'elle va penser de manière différente sur une structure. Je pense à un skatepark ou des structures comme ça qui sont de plus en plus demandées. Nous n'aurons certainement pas la même perception des choses que les messieurs sur le regard, ben, je ne sais pas, à la fois sécuritaire, à la fois… je ne dis pas que les messieurs ne pensent pas à la sécurité hein, quand je dis ça, mais l'approche va être probablement un peu différente.
Merci Chantal Grandière d'avoir répondu à mes questions.
Il n'y a pas de souci.
Et donc là, le prochain rendez-vous, en tout cas pour ce réseau élu local en Mayenne, c'est donc les Journées nationales des femmes élues. Ce sera, si j'ai bien noté, les 27 et 28 novembre prochains.
Must be blind. this only as it is, then I won't say goodbye.
On écoutait Dangerous de The XCX, bien sûr, sur l'autre radio dans l'émission L'Agité du local. On commence à parler d'une réouverture possible le 27 novembre, la semaine prochaine. En attendant, les commerçants dits non essentiels prennent leur mal en patience et s'adaptent encore et toujours au confinement. À Château-Gontier, Sophie Gachot de la boutique La Fée Fifi a toujours un planning bien chargé. La créatrice de sacs à main, accessoires et ventes de prêt-à-porter s'est organisée complètement différemment par rapport au printemps dernier.
Alors le reconfinement pour moi est en fait un peu mieux au niveau commerce. Donc là j'ai mis en place le drive dès la première semaine, dès le lundi. Ça a super bien fonctionné là pendant 15 jours. Ça s'est un petit peu tassé là cette semaine. J'ai du boulot dans mon atelier, j'ai plein de commandes de Noël, donc ça me va. En drive aussi, on commande en avance ou alors... tout ce qui est création, quand elles ont une photo sur Facebook, elles me disent voilà, j'aimerais bien ça, mais dans une autre couleur. Donc après, on échange par photo et puis je leur fabrique et elles viennent le chercher. À la semaine, je peux avoir une dizaine de commandes déjà, donc c'est bien. En fait, au premier confinement, déjà, j'avais commencé par fabriquer du stock pour le magasin parce que j'en avais plus. Pas facile de concilier la fabrication et la vente à la fois. J'ai la chance d'avoir l'atelier juste derrière la boutique, mais en fait, la première fois, donc j'ai fait les deux premières semaines de la création pour le magasin et ensuite j'ai fait plus de 1300 masques, ce qui m'a pris énormément de temps. Et j'ai pas pu mettre en place le drive. On m'a demandé pour des masques enfants, puisque ça a été obligatoire à partir de 6 ans à l'école. J'ai refusé, en fait, parce que je voulais vraiment me concentrer sur ma boutique, sur le drive. Surtout que, à cette période-là, le magasin, il est plein. Donc, il faut vendre, même si on est fermé. Donc, j'ai voulu vraiment travailler différemment. Alors, on peut préparer la liste de Noël par mon site Facebook, donc La Fée Fifi. Et j'ai un petit peu Instagram. Et aussi un petit peu, vraiment un tout petit peu, ma ville, mon shopping. Le drive, c'est pas un chiffre d'affaires comme si on était ouvert. Hein. Ça nous aide, mais on n'arrivera pas au chiffre de l'ouverture. C'est pas la même chose. J'essaie de passer du temps avec les clientes, même si c'est sur le trottoir ou au téléphone aussi. Mais ce sera jamais le chiffre d'une ouverture. J'espère au 1er décembre, ça permet aussi aux clients de d'échelonner leur venue. Si on ouvre au 15 décembre, là, ça va être la foule. Donc, c'est pas forcément mieux, en fait. Vaut mieux au 1er et qu'on ait du monde un petit peu tout le temps, plutôt qu'au 15 et qu'on ait la foule et beaucoup de monde dans les magasins, et ce qui n'est pas forcément mieux, en fait. Et on sera de toute façon ouvert tous les jours.
Sophie Gachot est aussi la coprésidente de Castel Shopping, l'association de commerçants de Château-Gontier, ce qui lui permet de dresser un premier bilan des retours de ses collègues.
Il y en a qui travaillent aussi très bien, comme moi, même voire plus, et d'autres pas du tout, en fait. Ça dépend du secteur d'activité. Il y a aussi le bijou, où c'est un petit peu plus compliqué, la bijouterie. Donc là, il faut mettre en place un e-commerce. Il y a aussi Ma Ville, Mon Shopping. Tous les commerçants, quasiment, ont fait Ma Ville, Mon Shopping. Le drive, même si c'est pas notre métier, on s'y est tous mis. Je pense au magasin de jouets King Jouets, où c'est les plus gros mois. Il y a aussi une poule sur un mur dans le centre-ville. Donc il faut vraiment qu'elle vende différemment, quoi. L'association joue vraiment... la solidarité, et ce n'est pas que vers les commerçants adhérents à l'association, mais c'est vraiment tous les commerçants.
Et demain, on laissera la parole à la deuxième coprésidente de Castel Shopping, Christelle Travers, qui est aussi gérante de la boutique C'est comme elle aime. Et puis, c'est désormais l'heure de notre rubrique autour des belles initiatives en fin d'émission. Claire, on part direction Andouillé, où un espace de vente a été mis en place pour les petits commerçants.
La directrice du supermarché Carrefour d'Andouillé a décidé dès le début de ce reconfinement d'installer un espace devant son magasin permettant de recevoir les commerçants et artisans mayennais obligés de fermer, et ce jusqu'aux fêtes de Noël. Si vous êtes commerçant artisan et intéressé par l'initiative, vous pouvez réserver votre jour et créneau au 02 43 69 76 19.
À Cossé en Champagne, des plats chauds disponibles sur commande.
Valérie Bourny, responsable du restaurant épicerie Les Loups Gourmands, propose des produits frais et des plats chauds à emporter tous les jours. Pour les produits frais, les livraisons sont possibles les lundis. Pour les plats chauds, il faut les commander au 02 43 02 68 33 pour les récupérer à partir de 11h30 le jour même. Les menus sont affichés devant le restaurant, mais aussi sur leur compte Facebook.
Et Claire, un peu de lecture à Argentré, c'est ça ?
Et oui, si vous êtes à Argentré, n'hésitez pas à essayer le prêt à emporter. La bibliothèque vous propose de récupérer des livres, des DVD, des magazines. Il faut tout d'abord choisir leur document sur le réseau des bibliothèques de Laval Agglo. Vous pouvez aussi téléphoner à votre bibliothécaire. Vous réservez votre document. Ensuite, la bibliothécaire vous donne rendez-vous par téléphone. Et lorsque votre commande est prête, il ne vous reste plus qu'à la récupérer. Pour la bibliothèque d'Argentré, contactez le 02 72 95 12 01.
À Laval, le Zoom et le Manas se réadaptent.
Les deux musées de Laval, obligés par les restrictions sanitaires de fermer, se réinventent. Le personnel a l'autorisation de la préfecture pour intervenir dans les établissements scolaires, une occasion pour le Zoom de parler de fake news ou des stéréotypes de genre, et pour le musée d'art naïf et d'art singulier de faire découvrir ses collections. Pour ce dernier, un peu moins d'activités prévues que pour le premier confinement, car moins d'attentes, selon Antoinette Le Faller, la directrice. Mais pour le Zoom, retrouvez toutes leurs actualités, journées à thème, activités pour occuper les enfants sur leur compte Facebook.
Bien utile. Merci Claire en tout cas pour toutes ces initiatives. Et puis si vous avez d'autres choses à nous partager, d'autres événements, d'autres initiatives elles aussi, n'hésitez pas à contacter notre répondeur au 09 70 40 59 40. C'est la fin de notre émission L'Agité du local pour aujourd'hui, donc jeudi 19 novembre. Merci Claire.
Merci Marie, à demain tout le monde.
Et à demain, bonne fin de journée à toi. À suivre évidemment sur l'antenne à 19h, vous pourrez retrouver La Grande Séduction avec la discographie du chanteur, compositeur et parolier David Lynx avec du jazz, mais pas seulement. À 21h, All Blues avec pour commencer deux titres de Alastair Green. Je vous laisse découvrir la suite. Prochaine quotidienne, comme Claire vous l'a dit, demain à 12h15. Bonne fin de journée à tous et à très vite.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est l'agité du local.